Commençons donc par le premier module de notre application, le module JPA. JPA signifie donc Java Persistence API. Il s'agit d'une technologie qui est très mature, issue de travaux qui ont en fait débuté dans le milieu des années 90 au travers d'une société qui s'appelait TopLink et qui commercialisait un produit de mapping objet relationnel programmé en C++. JPA est issu de ces travaux et l'implémentation de référence Eclipse Link directement issue des travaux de cette société, vieux donc d'une vingtaine d'années. Il s'agit donc d'une technologie très mature, très sophistiquée et qui est parfaitement utilisable dans des projets d'entreprise. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'automatiser au maximum les opérations crudes avec la base de données. Quand on manipule des modèles objets complexes, on peut se retrouver avec une quantité astronomique de requêtes SQL à écrire pour manipuler notre modèle objet et pour implémenter les différentes opérations crudes vers la base de données. JPA apporte cette solution de l'automatisation de la génération de l'ensemble de ces requêtes SQL. On peut également, au travers d'un modèle JPA, passer nos propres requêtes SQL, et ce point est extrêmement important si le modèle objet que l'on gère est un modèle objet qui existe déjà depuis un long moment et pour lequel de nombreuses requêtes SQL ont déjà été écrites. Ces requêtes SQL peuvent parfaitement être récupérées, réutilisées et incorporées dans un modèle JPA afin d'être toujours exécutées. Il existe un langage alternatif à SQL que l'on appelle le JPQL, le JPA Query Language. Ce langage JPQL permet également d'écrire des requêtes sur notre modèle objet qui seront ensuite traduites par l'implémentation de JPA en requêtes SQL vers la base de données. L'intérêt du JPQL est que les requêtes sont écrites en fonction du modèle objet plutôt qu'en fonction du modèle relationnel et donc sont indépendantes de la façon dont nos objets sont écrits en base et de la structure de table qui a été choisie pour enregistrer notre modèle objet. Si cette structure de table est appelée à changer dans la vie de notre modèle objet, les requêtes SQL devront être réécrites en fonction des changements de la structure relationnelle. En revanche, les requêtes JPQL n'auront pas besoin d'être réécrites, simplement leur traduction par l'implémentation JPA sera différente et collera à la nouvelle structure relationnelle qui aura été choisie. Écrivons donc maintenant notre modèle objet. Nous allons commencer par écrire une classe très simple, très classique, une classe musicien, qui va en fait constituer l'ensemble de notre modèle objet. Cette classe musicien comporte essentiellement trois champs. Un champ de type chaîne de caractères qui porte le nom de ce musicien. Le deuxième champ est un champ de type date et porte la date de naissance de notre musicien. Et enfin, le troisième champ est un champ de type music type. Nous verrons dans un instant quel est le type music type exactement. De quoi a-t-on besoin de façon indispensable pour écrire cet élément qui est en fait un bin Java très classique dans une base de données? Eh bien, ce qu'il faut d'abord constater, c'est que l'ensemble des enregistrements dans une base doivent posséder une clé primaire et cette clé primaire doit impérativement figurer dans notre bin Java. Donc, le premier champ technique que l'on doit ajouter impérativement à tout objet JPA est un champ de type clé primaire et de type longue. Nous avons a priori plusieurs choix pour le type de cette clé primaire. Les choix principaux sont de type chaîne de caractères ou entier, de type int ou de type longue. Ici, on choisit le type entier longue qui, en termes de performance, sera meilleur que le type chaîne de caractères et a priori approximativement équivalent au type int. Une fois choisi le type numérique, il nous reste encore la possibilité de prendre un long sous forme de type primitif Java ou sous forme de classe enveloppe, de classe wrapper, donc sous forme d'objet. Il est toujours meilleur de choisir l'objet plutôt que le type primitif. Pour quelle raison? Eh bien simplement parce que le modèle relationnel, la base de données, gère le fait que la valeur d'une colonne dans un enregistrement peut être nulle. Or, si notre long est un long de type primitif, sa valeur par défaut sera nécessairement 0, ne sera pas nulle. Donc le fait de prendre un long type objet permettra de mieux coller au comportement en base de données, précisément de nos données. Donc notre classe musicien avec son champ technique va pouvoir aller en base et va pouvoir être géré par notre module JPA. À présent, il nous faut ajouter un certain nombre d'éléments techniques qui sont en fait des annotations. Ces annotations vont être utilisées par JPA comme des métadonnées posées sur les différents éléments de notre classe musicien. La première de ces annotations est l'annotation entity, @entity, qui doit être posée sur la classe musicien que l'on a écrite. Cette annotation entity va permettre à JPA de reconnaître que cette classe est une entité JPA et donc va la gérer en tant que telle. La deuxième annotation obligatoire est l'annotation @ID que l'on pose sur le champ clé primaire de notre classe. Ce champ clé primaire est obligatoire, mais on doit indiquer à JPA quel est le champ de notre classe qui représente la clé primaire, ici le champ ID. Et en fait, en toute rigueur, ces deux éléments sont suffisants pour faire fonctionner notre classe musicien en tant qu'entité JPA. Les choses ne sont pas tout à fait terminées car on a besoin tout de même de raffiner nos métadonnées, notamment avec des éléments optionnels. Le premier de ces éléments est d'indiquer à JPA quelle stratégie de génération nous allons utiliser pour notre clé primaire. Si l'on ne souhaite pas déléguer à JPA la génération de nos clés primaires, ça sera à notre application, à des parties techniques de notre application, d'assurer cette génération. Et donc, à chaque fois que l'on voudra écrire un musicien en base de données, ça sera à nous, dans notre application, de fixer la valeur du champ ID à une valeur de clé primaire qui soit évidemment correcte. Et en particulier, ça sera à nous, à notre code applicatif, de garantir que la valeur de clé primaire insérée dans un musicien donné, insérée dans une instance particulière de musicien, n'est pas déjà utilisée en base de données. Ce problème étant en soi assez complexe, il paraît effectivement plus simple de déléguer cette génération à l'implémentation, c'est-à-dire un JPA en lui-même. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte est le fait que certains champs de notre bin Java vont être automatiquement pris en compte par JPA pour être rangés dans des colonnes de la table musicien et pas d'autres. Les champs qui sont mappés par défaut, mappé est un terme technique, c'est un peu du jargon JPA, ça veut dire que ces champs sont pris en compte automatiquement par JPA pour générer des colonnes dans la table musicien. Donc les champs qui sont automatiquement mappés par JPA sont essentiellement les champs de type primitif Java, les champs de type classe enveloppe, donc associés au type primitif, et les champs chaîne de caractères. Les champs qui sont d'un autre type doivent être explicitement annotés avec des annotations JPA, bien sûr, pour pouvoir aller en base de données. Et c'est le cas du champ de type date qui n'est pas mappé par défaut par JPA. Il doit être annoté avec cette annotation temporale. Et cette annotation temporale doit préciser le type de date qui est enregistré dans ce champ. S'agit-il d'une date qui est juste un jour, un mois et une année? S'agit-il juste d'une date à l'intérieur d'une journée, donc typiquement heure, minute, seconde, ou s'agit-il d'une date, jour, mois, année, puis heure, minute, seconde? Ces trois types SQL sont bien connus et donc on précise en attribut de la notation temporale le type de date que l'on souhaite enregistrer en base. On peut également ajouter des métadonnées optionnelles sur les différents champs de notre classe. En l'occurrence, pour enregistrer le nom de notre musicien, on souhaite préciser exactement le nom de la colonne dans laquelle ce champ nom va être enregistré. On peut ajouter ce type de métadonnées optionnelles avec la notation colonne qui peut être en fait posée sur n'importe quel champ mappé en base. Cette annotation colonne peut nous permettre également de fixer la longueur du champ nom. Par défaut, JPA enregistre les chaînes de caractères dans des champs de type varchar et de longueur 255, ce qui peut être surdimensionné pour notre application. Ces champs colonnes, qui permettent de préciser entre autres choses les noms de colonnes, peuvent également permettre de s'adapter à une table musicien qui existerait déjà. Grâce à ces métadonnées, on peut en fait adapter un modèle objet nouveau à un schéma de base de données legacy, un schéma de base de données qui existait en fait avant l'application que nous sommes en train de construire. Et puis reste le cas de ce champ music type qui est un peu particulier. Il s'agit d'une énumération. Music type est en fait une classe Java particulière appelée énumération et dont on fixe précisément les instances à la déclaration de la classe. En l'occurrence, notre énumération ne peut avoir que quatre instances: jazz, classical, rock et folk. Ce champ de type music type, qui ne peut prendre donc que ces quatre valeurs, peut être mappé de deux façons en base de données. La première façon est d'enregistrer le numéro d'ordre de l'instance tel qu'il a été déclaré dans l'énumération, donc 0 pour jazz, 1 pour classical, 2 pour rock et 3 pour folk. La deuxième façon de le mapper est de le mapper sous forme de chaîne de caractères, donc d'écrire explicitement en base le nom de l'instance, jazz, classical, etc. C'est ici le choix que l'on fait, essentiellement pour deux raisons. La première est une raison de lisibilité. Il sera plus simple, quand on regardera uniquement le contenu de notre base de données, de voir quelle valeur d'énumération a été enregistrée pour une ligne de notre table. Et d'autre part, pour des raisons d'évolution de notre modèle objet, si jamais quelqu'un s'amuse à inverser classical et jazz, éventuellement sans le savoir, il va également modifier les numéros d'ordre des instances dans cette énumération et donc changer les valeurs qui ont été enregistrées dans notre base. Nous avons donc configuré une première classe Java sous forme d'une entité JPA. Nous avons maintenant besoin de tester ce modèle et pour cela, bien sûr, il nous faut une base de données sur notre poste de développement. La solution locale qui a été choisie est d'utiliser une base de données MySQL. L'objet est également de montrer que l'on peut parfaitement mettre au point un modèle JPA avec un serveur de base de données particulier, ici MySQL, et déployé en production avec un autre serveur de base de données, en l'occurrence SQL Server, qui est la solution proposée par Azure. Faisons ici une petite parenthèse sur les particularités du stockage dans Microsoft Azure. Et ces particularités, d'ailleurs, ne sont pas propres à Azure, elles sont générales dès l'instant que l'on déploie nos applications d'entreprise dans le cloud. Dans le cloud, rien ne se passe comme sur un poste de développement ou comme sur un serveur hébergé dans les locaux de notre entreprise. En fait, nous avons d'une façon générale dans le cloud et en particulier dans Azure, trois solutions de stockage, trois types de solutions de stockage. La première solution consiste à stocker des données non structurées, que l'on appelle des blobs, et nous reviendrons sur cette solution de stockage car nous allons créer dans notre application un module de stockage en blob. La deuxième solution est une solution un peu plus structurée que le blob, consiste à stocker l'intégralité de nos données dans une table qui va contenir des documents plutôt que des enregistrements au sens relationnel du terme. C'est ce que l'on appelle une solution de stockage NoSQL. Alors NoSQL n'est pas un mouvement revendicatif anti-SQL. NoSQL signifie Not Only SQL, c'est-à-dire qu'il existe des solutions alternatives à SQL pour enregistrer des données en masse dans des bases. Azure propose une solution de stockage de ce type que nous n'utiliserons pas dans cette application. Et la troisième solution de stockage est la solution SQL classique, donc enregistrer nos données dans des bases relationnelles classiques comme on en fait sur nos serveurs personnels ou sur nos serveurs d'entreprise hébergés localement. C'est cette solution que nous allons utiliser aujourd'hui pour notre module JPA. Nos données sont des données relationnelles classiques. Nous n'avons pas besoin, pour des questions notamment de performance ou de volume, d'utiliser de solutions NoSQL. Donc cette solution nous convient pour le moment. Comment explique-t-on à JPA qu'il doit s'adresser à telle base plutôt qu'à telle autre? Comment lui dit-on que nos classes sont rangées dans tel module de notre application plutôt que dans tel autre? Comment lui explique-t-on la façon dont il doit, par exemple, journaliser ses requêtes SQL qu'il envoie en base, etc. Toutes ces questions ont leur réponse dans un fichier unique de configuration que l'on appelle le fichier persistance.xml. Ce fichier rassemble en fait toutes les informations techniques dont JPA a besoin pour fonctionner d'une façon générale. Ce fichier rassemble des métadonnées qui ne peuvent pas être exprimées sur les différentes classes de nos entités JPA. Ce fichier suit un standard. Ici, on en a un premier squelette sous les yeux. Comme tout document XML, ce fichier persistance XML ne comporte qu'un seul élément racine qui a pour nom persistance. Le premier élément enfant de cet élément racine est l'élément persistance unit qui modélise une unité de persistance JPA. Techniquement, qu'est-ce que c'est qu'une unité de persistance? C'est en fait un ensemble de classes persistantes, donc d'entités JPA plus éventuellement d'autres classes, qui sont rassemblées à l'intérieur de cette unité de persistance. Cette unité de persistance possède un nom. Ce nom est précisé sous forme d'un attribut de l'élément persistance unit, ici name égale data service. La plupart du temps, une application JPA ne possède qu'une seule unité de persistance qui rassemble l'intégralité des classes du modèle. Cela dit, la possibilité technique existe d'en créer autant que l'on souhaite. Il ne faut pas confondre différentes unités de persistance qui vont cohabiter au sein d'une même application et une unité de persistance qui rassemble un certain nombre de classes utilisées en mode de développement et donc en mode de test, avec une autre unité de persistance qui rassemble les mêmes classes, mais cette fois-ci utilisées en production. Nous allons exploiter cette possibilité de JPA d'avoir en fait un même jeu de classes utilisé dans deux unités de persistance différentes, mais dans ce cas, elles seront déclarées dans deux fichiers persistance XML différents, l'un déployé dans notre environnement de test et de développement, et l'autre déployé dans un environnement de production. Il faut bien comprendre les choses car elles sont très différentes nous n'aurons pas dans notre application deux unités de persistance différentes qui fonctionnent au même moment dans la même application déployée en production. Le premier élément que l'on doit préciser est l'implémentation de la spécification JPA que l'on peut utiliser. Il en existe plusieurs. Glassfish propose en standard l'implémentation Eclipse Link. Wildfly propose en standard l'implémentation très connue et très populaire Hibernate, qui existe d'ailleurs pour plusieurs langages, pas uniquement pour le langage Java. Il en existe encore d'autres, tels que OpenJPA, supporté par la fondation Apache. Le deuxième élément est le mode dans lequel nous allons fonctionner. Il existe en fait deux modes de fonctionnement pour JPA. Un premier mode Java SE. Bien qu'étant une API Java EE, JPA peut être extrait de Java EE et associé à des applications Java SE pour fonctionner en environnement SE. Bien sûr, cet environnement est plus pauvre en fonctionnalités que l'environnement EE, et notamment, les transactions ne sont pas gérées automatiquement en environnement Java SE. C'est l'objet de ce que l'on indique ici dans ce fichier persistance.xml. Transaction type égale ressources locales signifie que nous allons gérer les transactions à la main au sein de notre application. Il s'agit typiquement d'un comportement Java SE. Enfin, le fichier persistance.xml nous permet d'indiquer un jeu de propriétés. Ces propriétés sont en fait des paires clés-valeurs qui vont nous permettre de particulariser le fonctionnement de notre module de mapping objet relationnel. Voyons un certain nombre de ces propriétés. Il y a en fait deux types de propriétés que l'on peut fixer. Des propriétés standards indiquées par la spécification et dont les clés sont spécifiées dans la spécification précisément. C'est le cas des propriétés que nous avons sous les yeux qui indiquent comment on doit se connecter à la base de données dont JPA a besoin pour fonctionner. Ici, il s'agit d'une base de données MySQL. On doit essentiellement préciser quatre propriétés. Les trois premières sont bien sûr les éléments dont on a besoin pour se connecter, URL de connexion, nom de connexion et mot de passe. Et le premier élément, ou le dernier, suivant la façon dont on regarde les choses, l'implémentation du driver JDBC qui va être utilisé par le module JPA pour dialoguer avec la base de données. Bien évidemment, ces quatre éléments, driver, chaîne de connexion, login et mot de passe, sont propres à chaque base de données. La syntaxe de ces éléments est en général propre à chaque édition de base de données. Mais on a également d'autres paramètres qui peuvent être propres à l'implémentation de JPA que l'on utilise. Ici, on utilise Eclipse Link, donc on peut passer également des paramètres qui ne seront interprétés et pris en compte, bien sûr, que par Eclipse Link. Si l'on avait eu une implémentation Hibernate, on aurait pu laisser ces paires clés-valeurs ici, mais qui n'auraient pas été prises en compte, et en ajouter d'autres propres à Hibernate. Qu'est-ce que ces paires clés-valeurs nous indiquent ici? Qu'est-ce que ces propriétés nous indiquent ici? Elles nous indiquent simplement que l'on souhaite écrire les scripts de création et d'effacement de nos schémas de table dans deux fichiers, create.sql et drop.sql, rangés dans un répertoire SQL. Alors, ce point est utile en mode de développement parce que l'on maîtrise parfaitement l'endroit où peut se trouver ce répertoire SQL. Il va se trouver en fait dans notre projet Eclipse. En revanche, en production, ces deux propriétés doivent être retirées. Et les deux dernières propriétés indiquent à Eclipse Link ce qu'il doit faire de ces scripts de création et d'effacement de notre base de données. Doit-il les envoyer uniquement vers les fichiers, auquel cas ça sera à nous d'exécuter ces fichiers pour créer le schéma de base de données? Doit-il les envoyer uniquement à la base de données pour créer le schéma automatiquement au lancement de notre application? Ou doit-il faire les deux, créer automatiquement le schéma en base et écrire ses scripts de création et d'effacement dans des fichiers? Lorsque l'on est en mode développement, il est pratique en fait d'utiliser ce dernier mode, puisque l'on a à la fois le schéma créé automatiquement et les commandes SQL enregistrées dans un fichier que l'on peut ensuite versionniser, par exemple. Enfin, ces dernières propriétés nous permettent de fixer les éléments qu'Eclipse Link va journaliser, va envoyer à la journalisation. Eclipse Link, tout comme Hibernate et tout comme OpenJPA, est capable d'envoyer énormément d'informations sur la façon dont il traite nos données. Cela part du chargement des classes et de l'analyse de ces classes. Il est capable de journaliser chaque classe, chaque champ et la façon dont il prend en compte l'intégralité des annotations que nous avons mises sur nos classes et sur nos champs, jusqu'aux requêtes SQL qui sont envoyées en base de données. Bien sûr, cette journalisation doit encore une fois être réglée différemment quand on est en mode développement et quand on est en mode production, essentiellement pour des raisons de performance. Le fait de journaliser l'intégralité de nos requêtes SQL a un coût non négligeable sur l'exécution de notre application. Une fois que nous avons créé notre modèle objet, donc cet ensemble de classes avec ses annotations, une fois que nous avons configuré, donc écrit notre fichier persistance.xml et rangé ce fichier dans le bon répertoire de sorte que le module JPA le trouve et puisse l'analyser, nous sommes prêts à faire fonctionner notre modèle JPA. JPA expose de nombreuses fonctionnalités, nous n'allons pas toutes les voir en détail. Voyons pour le moment les fonctionnalités crudes. La création d'un objet en base, donc l'émission d'une recette insert avec les valeurs d'un objet Java que nous avons créé par ailleurs, se fait suivant le pattern suivant. On commence bien sûr par créer notre bean musicien qui doit être écrit en base. Puis on a un peu de code technique JPA à écrire. Le premier objet que l'on doit créer est un objet de type Entity Manager Factory. Cette interface est une interface JPA, donc propre à la spécification JPA. Le pattern de création de cet objet est le suivant, persistance.createEntityManagerFactory. Et là, nous passons une chaîne de caractères à cette méthode qui est le nom de l'unité de persistance que l'on souhaite charger. Cet objet Entity Manager Factory modélise en fait d'une certaine façon à la fois l'ensemble de notre unité de persistance d'une part et d'autre part la connexion à la base de données. Il est donc assez coûteux à créer puisque l'implémentation JPA va à la fois se connecter à la base et analyser l'ensemble de nos classes. On peut donc en créer une unique instance pour l'intégralité de notre application. À partir de cette instance d'Entity Manager Factory, on crée un deuxième objet, Entity Manager, par invocation de la méthode createEntity Manager. Et la création de cet Entity Manager, à la différence de la Factory, est elle très légère. Donc on peut se permettre d'en créer autant que l'on veut, et une bonne pratique est en fait d'en créer un par transaction. À chaque nouvelle transaction, on peut donc créer un nouvel Entity Manager. Et c'est au travers de cet Entity Manager que l'on va avoir accès aux opérations de persistance. Pour persister un objet Java en base de données, donc notre bean musicien en base de données, il suffit de le passer en argument à la méthode persist de notre Entity Manager. Bien sûr, toutes les opérations en base de données doivent se faire dans le contexte d'une transaction. Cette chose est vraie dans le domaine SQL, elle est vraie également dans le domaine JPA. Au travers de cet Entity Manager, on doit donc créer une transaction et la démarrer, em.getTransaction.begin, puis à l'issue de nos opérations de persistance, soit committer notre transaction par appel à la méthode commit, soit au contraire les annuler par appel à la méthode rollback. Deuxième élément de notre tétralogie crude, la partie lecture d'un objet dans la base de données. Tout comme notre opération de persistance d'écriture en base était passée par l'objet Entity Manager, la lecture d'un objet passe également par cet objet, em.find, auquel on doit passer la classe de l'entité que l'on souhaite lire et la valeur de la clé primaire. Sur cette invocation de la méthode find, JPA va générer une requête select et nous créer cet objet musicien automatiquement pour nous. Ici, nous l'avons écrit dans un contexte non transactionnel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une lecture n'est pas nécessairement transactionnelle. Tout dépend de ce que l'on veut faire de l'objet ensuite. On peut également créer cet objet musicien, tout du moins aller le lire en base, dans un contexte transactionnel, notamment si on souhaite le modifier ensuite. Simplement, il faut savoir que l'attachement de cette instance de musicien à une transaction a un coût, et donc on paie un petit surcoût si on exécute cette requête find dans le contexte d'une transaction. Troisième opération, la mise à jour d'une entité. Ici, on a deux façons de faire cette mise à jour qui dépendent en fait du contexte dans lequel on travaille. La première façon, la plus simple, est de lire notre entité en base à partir du nom de sa classe et de la clé primaire, soit dans un contexte transactionnel, soit dans un contexte non transactionnel, puis de modifier cette entité, cette fois-ci dans un contexte transactionnel. La modification de cette entité va automatiquement générer un update envoyé vers la base de données par JPA sur invocation de la méthode commit de notre Entity Manager, plus exactement de la transaction gérée par cet Entity Manager. Là, on peut avoir le sentiment qu'un peu de magie JPA se met en place, étant donné que la simple invocation de la méthode, en l'occurrence set age avec un âge différent, va générer un update en base de données. Et c'est bien ce qui se passe. En fait, notre objet musicien est une entité JPA, elle est attachée à un Entity Manager, et dès l'instant que cet objet est attaché à un Entity Manager, toute modification de cet objet va automatiquement entraîner la mise à jour de la base de données. C'est la raison pour laquelle on parle de mapping objet relationnel. L'objet du mapping ORM est bien de refléter en base de données et automatiquement les modifications qui sont faites sur notre modèle objet. À noter également que l'Entity Manager gère un cache automatique qui est utilisé pour optimiser les accès à la base de données. Donc les requêtes faites sur un Entity Manager ne génèrent pas nécessairement de requêtes SQL en base. Si l'objet que notre application demande se trouve déjà dans le cache de l'Entity Manager, JPA fera l'économie d'une requête SQL envoyée en base. En fait, ce cache fonctionne à deux niveaux, puisque l'objet Entity Manager Factory que nous avons vu tout à l'heure gère également son propre cache. Donc JPA gère un cache à deux niveaux, un premier cache au niveau de l'Entity Manager Factory et qui est valide pour l'intégralité de la base de données, et un deuxième niveau de cache associé à chaque Entity Manager créé à partir de cet Entity Manager Factory et qui partage le cycle de vie de cet Entity Manager. Ce double niveau de cache permet d'optimiser les choses et permet d'avoir des performances tout à fait acceptables pour les outils de mapping objet relationnel. À noter que le fonctionnement de ce cache repose aussi sur un principe qui est que l'on s'interdit de modifier la base de données indépendamment de notre module JPA. Si jamais j'ouvre une connexion directe à ma base de données et que je modifie soit les données, soit la structure de table, JPA et notamment le cache de l'Entity Manager Factory sera désynchronisé de cette base de données et n'aura aucune possibilité de savoir les modifications que j'aurais faites dans son dos. Donc ce cache a un avantage qui est celui de l'optimisation. Il a un inconvénient, c'est qu'il entraîne une utilisation exclusive de la base de données. Deuxième solution pour la modification d'une instance JPA, et cette solution est très fréquemment utilisée, nous allons voir pourquoi. Je prends un objet musicien créé de toutes pièces qui n'a a priori jamais vu la base de données. Je lui fixe une valeur de clé primaire qui correspond à l'objet musicien que je veux modifier et je remplis ces champs avec des valeurs qui sont celles de mon application. Plutôt que de tenter de recopier ces champs dans une instance de musicien connue de l'Entity Manager et que j'aurais relu à partir de cette clé primaire, je vais utiliser la méthode merge, qui signifie fusionner, de mon Entity Manager pour en fait remettre ce musicien en base. Comment mon Entity Manager va-t-il fonctionner? Il va prendre la clé primaire de l'objet musicien que j'ai fixé moi-même à la main, mais à partir d'une valeur de clé primaire que je connais déjà, et recopier les valeurs des champs de cet objet musicien en base de données de façon à mettre à jour l'entité musicien qui possède cette clé primaire. Cette façon de faire est nécessairement très utile. Pourquoi? Parce que, en fait, cet objet musicien est probablement un objet que j'ai lu en base, que j'ai envoyé dans un module de mon application qui ne connaît pas le module JPA et qui donc a détaché en quelque sorte cet objet de l'Entity Manager. J'ai présenté cet objet dans un formulaire à un utilisateur qui l'a exploité, qui l'a éventuellement modifié et qui veut ensuite reporter ces modifications en base de données. Donc ces modifications peuvent être reportées avec cette méthode merge qui va se servir de cet objet comme d'un modèle pour mettre à jour les champs de l'objet qui se trouve en base. Dernière opération de notre tétralogie crude, l'effacement d'une entité. L'effacement d'une entité en JPA suit un pattern un peu particulier puisqu'il faut connaître cette entité pour pouvoir l'effacer. Il faut donc commencer par charger cette entité de la base. Peut-être l'a-t-on fait par ailleurs dans notre application, et ensuite passer cette entité en paramètre de la méthode remove de l'Entity Manager. Automatiquement, une requête delete va être envoyée par JPA à la base de données qui va effacer la ligne correspondante de la table musicien. Bien sûr, cette modification doit être faite dans le contexte d'une transaction. Notons un dernier point sur cet Entity Manager. En principe, lorsque l'on n'a plus besoin d'un Entity Manager, il faut appeler sa méthode close pour indiquer que l'application peut récupérer les ressources gérées par cet Entity Manager. Notamment, son cache va être détruit, ce qui permet d'économiser la mémoire de notre application. Dernière fonctionnalité de JPA liée à l'Entity Manager que nous allons voir, la notion de requête. On peut écrire des requêtes directement en SQL et les gérer au travers de notre Entity Manager. On peut également écrire des requêtes dans un langage spécifique à JPA, le JPQL, qui signifie JPA Query Language. On peut déclarer les requêtes dans notre code essentiellement de deux façons, soit écrire ces requêtes dans des chaînes de caractères et les passer à notre Entity Manager, ou les écrire dans des annotations. Dans ce cas, nos requêtes deviennent des métadonnées de notre modèle objet et la syntaxe même de ces requêtes est analysée au chargement de notre modèle JPA, au chargement de notre unité de persistance, alors que les requêtes écrites directement dans le code, elles, sont analysées à l'exécution et donc éventuellement vont générer des erreurs à l'exécution de notre application plutôt qu'à son chargement. Dans l'exemple que nous avons ici, nous avons deux requêtes nommées posées sur la classe musicien. La première permet de lire l'intégralité des musiciens qui ont été enregistrés en base, et la seconde, qui est une requête paramétrée, permet de lire un musicien particulier à partir de son nom. Comment va-t-on exécuter ces requêtes? Ces requêtes sont modélisées dans un objet query qui est un objet JPA. Une instance d'objet query est créée par invocation de la méthode createNamedQuery, méthode à laquelle on passe le nom de la requête exprimé dans les annotations JPA. Une fois que cet objet est créé, on peut fixer la valeur des paramètres avec la méthode setParameter et exécuter cette requête avec la méthode getResultList. Notre requête JPQL, qui s'exprime sur le modèle objet, va être convertie en une requête SQL par l'implémentation de JPA et exécutée sur notre base de données. Notons qu'une requête JPQL ou SQL, on peut également faire des requêtes SQL nommées et les exécuter de la même façon, suivant le même pattern. Notons que ces deux types de requêtes passent au travers du cache et s'exécutent systématiquement sur la base de données. C'est ensuite la lecture des objets résultats qui va éventuellement exploiter le fait que le cache connaît déjà ces objets et que donc il n'est pas besoin d'aller les lire dans la base. Passons maintenant à la partie codage et voyons comment on peut mettre tous ces éléments en place dans une application Java. Le premier élément que nous allons créer est notre projet qui va contenir les classes du modèle objet dont notre application a besoin pour fonctionner. Il va s'agir d'un modèle JPA, donc annoté avec les annotations JPA comme nous l'avons vu. JPA se divise en deux éléments du point de vue du développement des classes. D'autre part, un jeu de dépendances dont on a besoin à la compilation, constitué essentiellement des interfaces et des annotations, et d'autre part, de dépendances dites runtime dont on a besoin à l'exécution. Donc, créons ce projet. Il s'agit d'un projet Java classique que nous allons appeler MVA JEE Model. Je sélectionne ici la version du JDK que nous venons d'installer. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut faire. Pour que l'on puisse créer des entités dans ce projet, il faut que l'on ajoute en dépendance les interfaces et les annotations JPA qui sont disponibles en fait dans GlassFish. Il suffit pour cela de les ajouter ici. Je vais aller les chercher automatiquement dans le répertoire libre de GlassFish. Et j'ai ici un répertoire javaee.jar qui en fait contient l'intégralité des éléments nécessaires à la compilation des projets Java E. Donc on va passer dans la perspective Java, étant donné qu'il s'agit d'un projet Java classique. J'ai donc bien mes librairies de référence qui ont été ajoutées. Il y a là-dedans l'intégralité des librairies Java E, donc il y a évidemment beaucoup de choses disponibles. Je vois qu'ici j'ai le jar javaxpersistance.jar qui contient l'ensemble des éléments dont j'ai besoin pour compiler des projets JPA. On peut donc créer notre première classe du modèle. Il s'agissait d'une classe musician que l'on va ranger dans un package frsoat javaee modèle. Donc cette classe musicien possède essentiellement deux champs. Il s'agit d'une classe très simple, un champ nom
et un champ MusicType. L'énumération MusicType n'existe pas, donc je peux demander à Eclipse de me la créer automatiquement. On va la ranger dans un package utile, parce que ce n'est pas vraiment une classe du modèle. Il s'agit d'une énumération, et on peut s'amuser à mettre un peu ce qu'on veut dedans. Une classe JPA doit nécessairement posséder un constructeur vide. Je vais le mettre de façon explicite. Une classe JPA doit nécessairement posséder un constructeur vide. Je vais donc le mettre, même si en Java, le constructeur vide par défaut existe toujours. Et puis, on a besoin d'un getter et d'un setter pour chacun des champs qui ont été déclarés. Donc, on peut demander également à Eclipse de nous générer ces éléments. Notre classe musicien est donc prête à devenir un bin JPA. Pour cela, il lui manque deux éléments. Le premier élément qui est obligatoire sur toutes les classes JPA, c'est la clé primaire. On va donc créer ce nouveau champ qui est un champ technique dont JPA et dont les bases de données ont besoin pour fonctionner. Bien sûr, ce champ doit également être associé à une paire getter-setter. Une annotation @ID qui est une annotation JPA qui permet d'indiquer à JPA que ce champ est bien la clé primaire. Et puis une deuxième annotation qui indique à JPA la façon dont cette clé primaire doit être générée. Donc je vais fixer la stratégie de génération à la valeur table, qui est une valeur qui est en fait compatible entre les deux implémentations les plus rencontrées de JPA, qui sont Eclipse Link d'une part, celle que l'on va utiliser, et Hibernate d'autre part. Et puis enfin, il faut que cette classe musicien soit annotée avec la notation JPA Entity pour en faire une entité JPA. Donc voilà, notre classe musicien est devenue une entité JPA et on va pouvoir l'écrire en base automatiquement. Avant d'aller plus loin, nous allons préciser la façon dont notre table va être créée. Indiquons d'abord que ce champ name va être enregistré dans une colonne name de façon explicite et que cette colonne doit être limitée à 40 caractères. Par défaut, JPA va nous créer une colonne de 255 caractères, ce qui sera éventuellement un peu luxueux pour un champ de type nom. La deuxième chose consiste à préciser la façon dont cette énumération MusicType va être enregistrée en base. Donc là, il s'agit de la notation Enumerated, qui peut prendre deux valeurs, soit ordinal, soit chaîne de caractères. Là, on choisit le type chaîne de caractères. Et précisons également que ce champ MusicType va être enregistré dans un champ nommé MusicType. De la même façon, précisons que cette colonne dans laquelle nous allons enregistrer le champ MusicType va s'appeler MusicType et qu'elle aura pour longueur 20 caractères. Précisons enfin deux choses au niveau de la classe elle-même. Tout d'abord, le nom de l'entité. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de préciser le nom d'une entité explicitement? Parce que ce nom d'entité va être utilisé dans les requêtes JPQL que l'on va être amené à écrire. Et par défaut, le nom d'une entité est le nom complet de la classe, qui est assez long et assez peu agréable à la fois à lire et à écrire. Donc on peut nommer notre entité de cette façon-là explicitement. Et cette fois-ci, notre entité s'appelle Musician. Alors, si l'on veut référencer cette entité par son nom ailleurs dans notre code, on a tout intérêt à écrire cette chaîne de caractères dans une constante plutôt que dans une chaîne de caractères en dur de cette façon-là. On peut le faire en créant au niveau de la classe une constante public static final string musician, par exemple, égale musicien, de cette façon-là, et remplacer le nom de cette constante, là où on avait notre chaîne de caractères en dur. Alors, si on écrit les choses de cette façon, on a une erreur de compilation au niveau de la référence à cette constante dans les arguments de l'entité, dans les attributs de l'entité. La raison en est que la portée de cette constante est l'intérieur de la classe musicien, et cette entité est déclarée à l'extérieur de cette classe. Donc pour que les choses compilent normalement, il suffit en fait de faire un import statique de cette façon-là, du nom complet de la classe, suivi du nom de la constante de cette façon-là. Et cette fois-ci, le compilateur trouve bien la constante au niveau de l'entité. Alors, une dernière chose que l'on va faire maintenant au niveau de cette entité, c'est une chose que l'on est amené à faire assez souvent dans des projets en vraie grandeur, quand on a un grand nombre d'entités, c'est en fait de mutualiser la déclaration ici de la clé primaire. En fait, toutes mes entités JPA vont avoir une clé primaire et probablement une clé primaire déclarée de la même façon. Donc ce que je vais faire, c'est créer une classe abstraite que je vais appeler par exemple abstract persistante. Cette classe abstraite pourra être étendue par l'ensemble de mes classes JPA et à l'intérieur de cette classe, je vais écrire la définition de la clé primaire qui sera donc commune à l'ensemble des classes de mon modèle. Je reprends ici mon getter et mon setter, bien évidemment. Cette fois-ci, je les retire de ma classe musicien. Ils n'ont plus rien à faire là. Et je n'ai plus qu'à déclarer que musicien étant cette classe abstract persistante pour récupérer la définition de cette clé primaire. Au niveau d'abstract persistante, j'ai plusieurs choses à faire. D'abord, il faut que j'annote cette classe pour dire à JPA qu'elle est effectivement une classe persistante. Je peux le faire de plusieurs façons. Une des façons les plus simples est d'utiliser la notation mapped superclass qui en fait va reporter l'intégralité des champs définis dans cette classe dans les différentes classes concrètes des entités JPA. Et c'est bien ce que je souhaite faire à ce stade. Si j'ai en plus des champs techniques communs à l'ensemble de mes classes persistantes, c'est évidemment dans ma classe abstract persistante que je vais les créer. Si par exemple je veux rajouter un champ de type date et qui porte la date de création de mes entités, je peux le faire au niveau de cette classe persistante. Les dates doivent être annotées d'une façon un peu particulière en JPA, puisque je dois indiquer qu'il s'agit soit du type date classique, d'une heure dans la journée, ou du couple date-heure dans la journée. Je rajoute également le getter et le setter, comme d'habitude. Et je peux également préciser que cette date de création va être enregistrée dans une colonne dont le nom est creation date. On peut ensuite déléguer la gestion de cette date de création directement à l'implémentation JPA en créant simplement une méthode qui peut être privée, init creation date. Cette méthode va se charger d'initialiser cette date de création, tout simplement new date. Et ensuite, il suffit d'annoter cette méthode privée avec la notation prépersiste pour que cette méthode soit automatiquement exécutée par l'implémentation JPA sur le cycle de vie de notre entité, en l'occurrence juste avant l'opération de persistance, c'est-à-dire avant l'enregistrement initial dans la base de données. Nous avons donc maintenant une entité musicien complète. D'une part, les champs techniques ont été regroupés dans une superclasse abstraite qui n'a pas vocation à être instanciée en tant que telle, et les champs propres à notre objet du modèle musicien se trouvent enregistrés directement dans une classe musicien. À partir de ce pattern simple, on peut créer des modèles arbitrairement complexes. Il nous manque quelques éléments comme la mise en relation d'entités notamment qui dépassent le cadre de cette présentation. Nous allons passer à présent à la deuxième phase de la construction de ce modèle, qui est le test de ce modèle dans une base de données de développement locale au poste de développement. Pour cela, nous allons créer un deuxième projet qui sera un projet de test de ce modèle. Il s'agit encore d'un projet Java classique que l'on va appeler MVA JEE. Modèle test. La configuration est la même que celle que l'on a faite pour le projet modèle simple. Nous allons simplement ajouter des librairies dites runtime qui vont être utilisées à l'exécution. Donc nous avons besoin de la librairie Java EE qui est la même que la librairie que nous avons mise en dépendance de notre projet modèle simple, mais également des librairies runtime qui vont nous permettre d'exécuter l'implémentation JPA. Notre projet est donc créé. On va également ajouter en dépendance une autre librairie qui est la librairie du framework de test que nous allons utiliser, à savoir TestNG. Le fait d'avoir installé le plugin TestNG crée automatiquement cette librairie, donc il devient très simple de l'ajouter en dépendance. Voilà, et on va créer une première classe de test dans le même package que notre classe musicien, fr.soat java ii model, et appeler cette classe musicien test. Créons une méthode test musicien dans cette classe, test musicien. Cette méthode test musicien va avoir pour objet de créer une instance de musicien et de l'enregistrer en base au travers d'Eclipse Link. Donc nous avons besoin que ce projet de test, modèle test, connaisse les classes de notre projet modèle, donc ait ce projet modèle en dépendance. Ce que l'on va faire maintenant, dans les propriétés, toujours l'onglet Build Path ici, et ajouter cette fois-ci le projet modèle en dépendance de notre projet de test. Je peux maintenant créer une instance de musicien. Égal new musicien, lui donner un nom, set nom Mozart, et un type de musique, musician.set music type, music type.classical. Comment maintenant peut-on utiliser JPA pour enregistrer cette instance automatiquement dans une base de données? Nous avons besoin de deux choses pour cela. La première chose, c'est un peu de code technique JPA. Et la deuxième chose, c'est un descripteur XML, ce fameux fichier persistance.xml, auquel ce code technique va se référer. Alors, ce fichier technique persistance.xml doit être enregistré dans un répertoire particulier, meta-inf. Il s'appelle persistance.xml, persistance.xml, et il doit contenir des éléments XML spécifiés. Commençons par copier-coller un squelette de fichier persistance.xml. Tout d'abord, l'élément racine persistance qui donc englobe l'intégralité des informations de ce fichier. Le premier élément qui définit l'unité de persistance que l'on est en train de définir. On peut avoir autant d'unités de persistance que l'on veut dans un même document persistance.xml. Cet élément précise deux attributs, le nom de notre unité de persistance que l'on va réutiliser dans notre code de test et la façon dont on gère les transactions dans cette unité de persistance. Ici, les transactions sont gérées manuellement. Le deuxième élément précise l'implémentation de JPA que l'on va utiliser. Ici, il s'agit d'Eclipse Link, donc cet élément serait différent si l'on utilisait Hibernate. Puis ensuite, la liste des classes persistantes de notre modèle. Il y a plusieurs façons de déclarer cette liste de classes et on peut également déclarer une liste de jars qui vont contenir ces classes persistantes. Et puis on a cet élément Properties qui se trouve ici, qui va nous permettre d'ajouter des propriétés standards propres à cette unité de persistance. Certaines de ces propriétés peuvent également être propres à l'implémentation de JPA que l'on utilise, ici Eclipse Link, sinon Hibernate probablement. Ajoutons à présent les propriétés dont on a besoin pour d'une part se connecter à la base de données et d'autre part faire fonctionner Eclipse Link. Le premier jeu de propriétés porte les paramètres de connexion à la base de données. Il s'agit d'une base de test utilisée sur le poste de développement, donc en l'occurrence d'une base MySQL. Il faut préciser le nom du schéma MySQL dans lequel nous allons travailler. Ici, musicien test. Le nom de l'utilisateur doit également être précisé. Musicien user. Et le mot de passe, tout simplement, muse. Les autres paramètres sont propres au fonctionnement d'Eclipse Link. Ici, on demande avec cette propriété à Eclipse Link de créer automatiquement les tables de notre base de données. On peut également utiliser ce paramètre drop_and_create qui commencera par effacer les tables pour en recréer de nouvelles. Si les tables existent déjà, ce createTables en fait générera des erreurs mais qui peuvent être ignorées dans la mesure où ce sont juste des erreurs qui indique que la création des tables ne peut pas avoir lieu du fait qu'elles existent déjà. Ensuite, ces deux propriétés supplémentaires, également propres à Eclipse Link, indiquent que les requêtes SQL qui sont envoyées en base vont être portées dans les fichiers de journalisation. Enfin, nous allons ajouter un élément supplémentaire facultatif à notre fichier de description persistance XML. Cet élément demande à Eclipse Link d'écrire le script de création et d'effacement des tables de notre base de données dans des fichiers, de sorte que l'on puisse les archiver et les utiliser pour créer notre base de production. Ces fichiers sont tous les deux enregistrés dans le répertoire SQL de notre projet Eclipse. Créons donc ce répertoire, New Folder, SQL, finish, c'est ici qu'ils apparaîtront lors de la première exécution de notre test. Bien, nous pouvons donc à présent retourner dans notre classe de test, musicien test, et ajouter les éléments techniques dont nous avons besoin pour enregistrer cette instance de musicien en base. Tout d'abord, nous allons retenir le nom de notre unité de persistance, puisque c'est elle que nous allons utiliser pour récupérer cet objet Entity Manager Factory dont nous avons besoin. Le premier objet que nous devons construire, Entity Manager Factory, se construit à l'aide de ce pattern, assez simple, Create Entity Manager Factory, auquel on passe en paramètre le nom de cette unité de persistance. Cet objet est l'objet de base, il modélise en fait une connexion à la base de données. On peut n'en créer qu'un seul pour toute une application, on n'a pas besoin de le dupliquer, on n'a pas besoin de le recréer plusieurs fois. Le deuxième objet dont on a besoin, l'Entity Manager, lui au contraire devrait être recréé pour chaque transaction, même si ce n'est pas nécessaire. Entity Manager, et c'est à partir de cet objet Entity Manager que l'on a accès aux différentes opérations de persistance. Bien sûr, la création d'un objet doit se faire dans le contexte d'une transaction, donc ce code doit être encadré par un em.getTransaction.begin et em.getTransaction.commit, et la persistance de notre musicien se fait en passant cet objet en tant qu'argument à la méthode persist de notre Entity Manager. Comment peut-on à présent exécuter notre test? Il nous suffit de poser la notation test de testNG sur notre méthode de test pour la rendre exécutable et de permettre à notre unité de persistance de se connecter à la base de données. Rappelons que la base de données que nous avons choisie est MySQL avec une instance locale. Donc le driver JDBC de MySQL doit être connu de notre projet au moment de l'exécution. On le colle donc dans ce projet ici. Ce driver est évidemment téléchargeable sur Internet. Et on le met en dépendance de notre projet de façon classique. Une fois cet élément technique ajouté, on peut exécuter notre test au travers d'Eclipse en tant que test TestNG. Le plugin TestNG va faire le travail pour nous. Il nous ajoute donc cette fenêtre qui nous indique que le test a bien été exécuté et est bien ouvert. Si l'on regarde dans la console, on se rend compte qu'effectivement, notre test a été correctement exécuté. Enfin, si l'on examine le contenu du répertoire SQL, on constate que le script de création de nos tables de notre base de données a bien été créé également comme partie du processus de création de notre base. Dernière vérification enfin, nos données ont-elles été créées en base ? Vérifions ce point à l'aide du MySQL Workbench. Dans l'onglet table du schéma musicien test, on a bien deux tables qui ont été créées. Une première table musicien qui contient bien le musicien que notre test a créé avec sa date de création automatiquement initialisée par JPA. Et une deuxième table qui s'appelle séquence, qui est une table technique utilisée par Eclipse Link pour générer les clés primaires de notre base de données. Retour à notre environnement de développement Eclipse, on peut donc, à l'aide de cette configuration, créer et tester des modèles de données arbitrairement complexes. On a séparé les choses en deux projets, un projet modèle qui porte les classes de notre modèle et un projet de test qui porte les classes de test et la définition de la façon dont ces classes de test vont être projetées, mappées en base de données. Cette façon de faire est très classique en JPA et nous allons l'utiliser dans un second contexte, celui d'une application Java EE complète avec des EJB, avec un service REST et avec une interface JSF.